Et voilà, il est temps et grand temps de retrouver notre invitée de ce soir, Florence Clairefeuille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous entend pas très bien, on va augmenter tous ces petits micros. Alors, merci d'abord à vous d'être venue jusqu'à nous de Trébasse à Gaillac. La route s'est bien passée ?
C'est avec plaisir, oui, oui, tout à fait. Il fait très beau maintenant.
Oui, c'est vrai que nous manquons de neige. Hein.
Exactement.
On a beau retourner à Gaillac dans tous les sens, il n'y a plus de neige nulle part. Peut-être un petit peu dans les forêts, il en reste un petit peu, même pas. Il a fait trop doux ce week-end, je pense. Alors, un métier, déjà, un premier métier, c'est celui d'écrivain public.
Exactement.
C'est quoi ? Florence, un écrivain public. Déjà, je ne savais pas tout à fait que ça existait encore. Je connaissais ce métier, mais je croyais que c'était en voie de disparition, moi.
Mais il y a beaucoup de gens comme ça. En fait, c'est vrai que l'image de l'écrivain public qu'on a, c'est toujours l'image très ancienne. Alors, avec la petite image qu'on retrouve assez souvent de quelqu'un qui écrit à la plume d'oie, la lumière d'une bougie. Enfin, c'est vraiment l'image ringarde par excellence. Alors, on se dit aujourd'hui, avec Internet, que peut bien faire un écrivain public ?
Mais oui !
Voilà. Et en fait, l'écrivain public existe toujours. Il est toujours autant nécessaire parce que justement, avec Internet, finalement, l'écrit est de plus en plus présent dans nos vies. Et les difficultés qu'ont les gens pour écrire, elles, n'ont pas diminué. Même si on apprend tous à écrire, à former des lettres à l'école, être à l'aise avec l'écrit, c'est complètement autre chose. Donc, des tas de gens ont encore besoin d'aide pour rédiger. Et donc, c'est là qu'intervient l'écrivain public.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que déjà, c'est une information un peu qui peut étonner certains, c'est que Internet développe l'écriture. Après, on est dans un monde où aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés avec l'écrit et la lecture. Il y a quand même beaucoup de monde qui n'accède pas à cette connaissance de l'écriture. C'est-à-dire que l'écrit est très très utilisé avec Internet, mais le français, enfin toutes les langues sont excessivement aussi abîmées par l'outil Internet.
Oui, mais abîmé, alors ce n'est pas tout à fait Internet, c'est plus les langages SMS, donc plus les téléphones portables pour le coup, qui abîment la langue, on va dire. Parce que sinon, sur Internet, en fait, tout ce qui est texte diffusé, que ce soit par le biais des sites ou des blogs, il y a quand même un niveau d'exigence relativement élevé par rapport au texte. En tout cas, pour tout ce qui est utilisé sur le plan professionnel, ce qui est de plus en plus courant. Et là, pour le coup, on a besoin de rédiger des textes de qualité et donc souvent les gens ont besoin d'aide, que ce soit pour la rédaction elle-même ou pour la correction lorsque les textes ont déjà été rédigés.
Alors l'écrivain public, c'est cette personne qui est la main, le stylo, les oreilles et du coup les yeux aussi hein, pour le coup de la personne qui n'accède pas facilement à ça, à cet exercice qu'est l'écriture.
Oui, alors l'écrivain public, c'est vraiment quelqu'un qui est multitâche, qui doit s'adapter sans arrêt à l'environnement et à la demande, parce qu'il y a autant de demandes différentes que de personnes qui vont venir faire appel à lui.
Alors par exemple, Florence, les demandes les plus incongrues. Des lettres d'amour, vous avez déjà fait des lettres d'amour ?
Non, je n'ai jamais eu à faire de lettres d'amour, que les miennes.
Ah, c'est déjà pas mal.
Non, on ne m'a jamais fait ce genre de demande, mais c'est vrai qu'on peut avoir des choses tout à fait différentes et même pas forcément que de l'écrit, parce que du coup, il se trouve que je parle également anglais et espagnol, et c'est vrai qu'on m'a fait des demandes parfois qui étaient en rapport avec ce fait-là. Je fais de l'assistance administrative par téléphone, pour le coup, là ce n'est plus de l'écriture, mais c'est toujours l'accès à la langue qui est compliqué pour la personne qui est d'origine étrangère. Alors sinon, les demandes après assez standards, c'est tout ce qui est une assistance pour l'écriture de lettres de motivation, de curriculum vitae, parce que bon, c'est de l'écrit un peu particulier et qu'on fait dans des situations qui sont aussi un petit peu délicates. On n'est pas toujours très à l'aise. Parler de soi, ça n'est pas évident. Donc on a souvent besoin de l'aide ou en tout cas d'un regard extérieur. Et puis après, le travail le plus important, mais là on est plus donc dans l'aspect biographe de mon métier, c'est le récit de vie des gens de la région.
On va en parler. Florence, ça fait combien de temps que vous pratiquez ce métier d'écrivain public ?
Alors, je suis écrivain public depuis 3 ans maintenant. Et ça a vraiment été un changement d'orientation radical par rapport à mes métiers d'avant. Parce qu'en fait, bon, je considère que c'est ma troisième vie professionnelle, finalement, puisque j'ai eu une première partie dans l'informatique. J'ai été analyste programmeur. Donc, ma formation
un
informatique...
Un autre langage, là. Hein.
Exactement.
Binaire.
Mais cette formation m'est beaucoup utile à l'heure d'Internet, puisque effectivement, ça
c'est
me
votre
permet...
outil.
Exactement. Et ça me permet de le manipuler de façon tout à fait naturelle, ce qui n'est pas forcément le cas de tous mes collègues.
Et non, un écrivain public, en général... Voilà. Et n'a pas été ingénieur informatique avant.
Oui, il n'est pas forcément très à l'aise avec la technique.
Est-ce que vous aviez connaissance dans l'histoire de l'écrivain public ? Vous parliez des lettres de motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, cette demande, elle a plus de poids ? Est-ce qu'elle elle représente plus de pression vis-à-vis des gens qui viennent vous rencontrer, qui doivent écrire ça qu'il y a quelques années ? Parce qu'on est dans un contexte quand même un peu particulier.
Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, l'enjeu sur une lettre de motivation n'a rien à voir avec ce qu'il a pu être il y a une vingtaine d'années. Quoi. Il y a 20 ans, bon, on était toujours un petit peu stressé au moment de rédiger sa lettre parce que quand même, c'était, encore une fois, c'était parler de soi et ça n'était pas forcément évident. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on sait très bien que le marché du travail n'est pas très facile. Donc, trouver un emploi est compliqué et l'importance qu'on donne à cet outil est d'autant plus importante. Et donc, les gens sont d'autant plus bloqués devant la feuille blanche pour pouvoir préparer le texte.
Et pour vous, du coup, quelles sont les étapes dans la rencontre de la personne pour arriver à lui rédiger du mieux possible cette lettre ?
Alors, la première étape, de toute façon, quelle que soit la demande et quel que soit le texte, le travail à fournir, c'est l'écoute. Ça, c'est vraiment l'étape primordiale. On ne peut pas rédiger correctement si on n'a pas d'abord bien écouté la personne qu'on a en face de soi, ne serait-ce que pour vraiment savoir de quoi on parle et être sûr de bien comprendre. Donc, il y a toujours une première étape où la personne doit s'exprimer, doit se raconter, dans le cas particulier de la lettre de motivation, parce qu'il faut avoir... Il faut avoir une vision complète de son parcours pour arriver à justement le mettre bien par écrit et mettre en avant les forces de la personne par rapport au poste auquel elle postule.
Et comment on se positionne en étant en fin de compte un intermédiaire, un outil face à l'attente parfois, j'imagine, assez démesurée de quelqu'un qui vous contacte et qui espère qu'à travers votre intervention, il y a 99% de chances que sa lettre fasse mouche?
Alors ça, évidemment, c'est un aspect un peu délicat et sur lequel je mets l'accent forcément à chaque fois. Moi, je peux assurer que la lettre sera correctement tournée. Je peux faire le maximum pour que les compétences et les qualités de la personne soient mises en avant. Mais clairement, je ne peux absolument pas assurer à la personne que cette lettre va déboucher sur une embauche. Parce que bon, déjà, ce serait lui mentir. Hein, de toute façon, il faut être assez réaliste.
C'est le cas de toutes les lettres de motivation.
Voilà, la lettre ne fait pas tout, de toute façon. Si elle peut amener quelque chose, c'est un entretien. Et là, pour le coup, à l'entretien, l'écrivain public n'est plus là.
On est seul face à l'employeur.
Exactement.
Alors, l'écoute, une qualité essentielle, et justement qui vous a amené aussi aux récits de vie dont vous parliez, ces récits de vie de notre territoire d'ailleurs, du Tarn, de l'Aveyron, à travers des portraits, des mémoires, des rencontres. Comment c'est venu à vous cette histoire-là ? Comment vous vous êtes dit, je vais aller à la rencontre des gens et je vais devenir leur biographe, leur mémoire ?
Alors, je n'ai pas inventé le concept, hein. C'est quelque chose qui existe, bon, je pense, plus ou moins depuis toujours, mais c'est vrai qu'on est dans une période où c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et dont de plus en plus de personnes ressentent le besoin, en fait. Parce qu'on est dans une époque où les choses vont très vite. Les personnes âgées d'aujourd'hui ont connu une évolution absolument faramineuse entre les conditions de vie d'un enfant il y a 80 ans et celle d'aujourd'hui, c'est un autre univers qui n'a absolument rien à voir. Et je pense qu'on est vraiment à une époque un petit peu charnière où justement on a besoin de se souvenir un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant ces décennies précédentes et où on a une mémoire qui est encore bien vivante aujourd'hui, mais malheureusement plus pour très longtemps. Ces gens qui ont 80-90 ans aujourd'hui, c'est clair que dans 20 ans, on ne pourra plus trop compter sur eux pour transmettre ces souvenirs, d'où l'importance de les faire mettre par écrit. Et là aussi, c'est un petit peu lié à l'évolution de notre société qui fait que... Les familles sont de plus en plus éclatées, l'oralité est de moins en moins présente dans nos vies.
On se raconte beaucoup moins nos histoires.
Voilà, exactement. Donc passer par l'écrit est d'autant plus important. Là où auparavant, à la veillée, les grands-parents pouvaient raconter un petit peu aux plus jeunes comment se passait la vie à leur époque, aujourd'hui c'est pratiquement devenu impossible.
Et on s'écrit moins aussi, Florence.
Exactement,
parce que, aussi. Moi j'ai le souvenir de boîtes à chaussures remplies de lettres échangées entre des amis, des arrière-grands-parents, ouais, etc. Et quelque part, la génération de nos parents et nos grands-parents ont arrêté aussi d'écrire autant.
Oui, ouais, mais c'est moi, je rencontre donc régulièrement des gens qui ont entre 80 et 90 ans. Et c'est vrai qu'on me raconte souvent, notamment pendant les périodes de fiançailles, on s'écrivait tous les jours. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on raconte ça aux ados d'aujourd'hui, comment tous les jours?
Mais si, ils s'envoient 10 textos toutes les heures. Ils s'écrivent aussi.
Voilà, ils s'écrivent aussi. C'est une autre démarche. Mais voilà, c'est vrai que l'écrit est quand même toujours là. N'empêche qu'il y a eu une évolution, mais absolument faramineuse.
Le temps s'est accéléré, ouais, et l'écrit s'est contracté au cœur de et du coup, il y a de la mémoire qui s'échappe.
Il y a de la mémoire qui s'échappe et c'est vrai que c'est important du coup de pouvoir un petit peu la rassembler. En fait, c'est toute l'idée, tout l'esprit du récit de vie. Hein, c'est vraiment de faire, c'est de faire un livre à partir des souvenirs d'une personne donc, qui a traversé des époques complètement diverses et tellement riches que vraiment ce serait dommage que tous ces souvenirs disparaissent avec elle. Donc on recense tout ça. Là encore, j'écoute beaucoup forcément tout ce qu'on me raconte.
Vous enregistrez ou vous notez ?
Alors, je fais un peu les deux. C'est-à-dire que je prends des notes parce que j'ai remarqué aussi que souvent les personnes en face de moi sont plus à l'aise si elles me voient écrire un petit peu parce que ça m'évite de les regarder tout le temps les yeux dans les yeux, ce qui finit par les mettre un petit peu mal à l'aise.
Oui, parce qu'ils livrent une intimité, ils livrent un morceau de leur vie, donc...
Ouais, alors ça c'est assez...
Vous ouvrez la porte de l'intérieur de chacun là.
Ouais. Et c'est dingue parce que c'est vraiment très facile en fait. Au départ on peut imaginer que c'est compliqué et en fait ça se fait en douceur évidemment, on commence pas tout de suite par livrer des choses très intimes, mais ça se fait très facilement et on devient très vite, l'évolution des rapports d'ailleurs entre la première rencontre et la dernière est assez phénoménale. Parce qu'on passe d'une... Alors, la première fois, on se serre la main, on est un petit peu... pas sur ses gardes, mais c'est vrai qu'on a affaire à un inconnu, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, au fil du temps, les gens viennent me faire la bise, on m'offre un petit café, on finit, comme par hasard, au détour d'une phrase, par me tutoyer, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que... la dernière rencontre, elle est toujours un petit peu délicate pour tout le monde parce qu'on a pris l'habitude de se voir, même si c'est pas tout à fait régulièrement, on se voit quand même assez souvent. Et puis forcément, on a créé des liens et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se quitter d'un côté comme de l'autre. Notamment pour les personnes qui se sont racontées parce que on est aussi dans une société où ces personnes âgées, il n'y a pas grand monde qui les écoute. Et quand elles ont comme ça quelqu'un qui vient une heure ou deux heures avec comme seule préoccupation justement de les écouter, c'est clair que pour elles, c'est quelque chose d'extraordinaire
de très précieux
au sens propre dans leur vie. C'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Et je conçois tout à fait que quand ça s'arrête, ça crée un vide.
Ces gens qui vous livrent ces récits de vie, que cherchent-ils ?
Alors, ce n'est pas toujours, c'est même assez rarement à leur demande. Le plus souvent, c'est à l'initiative des enfants que ce genre de choses se fait. Donc,
les enfants ont envie de cette mémoire, alors ?
Exactement. Des enfants qui ont 40, 50, voire 60 ans, donc qui eux-mêmes ont un vécu derrière eux, réalisent tout à fait que leurs parents ne sont pas éternels et qu'il y a toute une mémoire qui va disparaître avec eux. Et donc, ce sont plus les enfants qui ressentent le besoin de conserver justement une trace de l'existence de leurs parents et de tout ce qu'ils ont traversé. Parce que les personnes en elles-mêmes, souvent, leur première réaction, c'est « Mais moi, j'ai eu une vie tout à fait normale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ?» Alors que des choses à raconter, mais il y en a à l'appel.
Toutes les vies.
Exactement, toutes les vies. Et puis bon, le genre, j'ai eu une vie tout à fait normale. Et puis bon, la personne, en l'espace de 5 minutes, vous a démontré qu'en fait, elle a eu une vie, au contraire, pleine d'engagements de toutes sortes et tout à fait extraordinaire.
Ces livres, ces récits que vous créez sur comment ça marche après, ce sont des livres qui sont, c'est un livre qui est donné à la famille, enfin, comment ça se passe?
Alors,
est-ce que c'est diffusé, partagé, comment?
En général, c'est imprimé ce sont des petits tirages, hein, de l'ordre de 10, 20 ou 30 exemplaires, puisque c'est destiné au cercle familial, alors bon, parfois un peu élargi, mais en général c'est ça, c'est vraiment destiné à la famille, donc bon, les enfants, les petits-enfants, éventuellement des cousins, des cousines, donc on se voit un certain nombre de fois, en moyenne on peut compter une dizaine d'heures d'entretien pour quelqu'un qui veut passer sa vie en entier en revue. Suite à chaque entretien, donc moi je rédige le contenu de ce qu'on m'a raconté. Le texte que j'ai rédigé, je l'envoie à la personne pour qu'elle le relise, qu'elle le valide, qu'elle le complète, parce que souvent il y a des choses qui viennent après. La mémoire, c'est un puits sans fond. On commence à fouiller dedans et puis
ça active
des connexions un peu dans tous les sens. Et il y a plein de choses qui apparaissent. Et après, donc, lors de l'entretien suivant, on valide un petit peu s'il y a des modifications, des ajouts à faire. Et quand le texte est finalisé, on prévoit aussi des photos à insérer dedans. Donc, on numérise les photos, on numérise éventuellement des documents, des textes. Bon, des anciens diplômes, le menu du mariage, voilà, ce genre de petites choses. Je m'occupe de faire la mise en page et après donc, je fais imprimer selon à la demande, quoi, selon le nombre d'exemplaires qui m'ont été commandés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'impression numérique, on arrive à faire des tout petits tirages de très bonne qualité. Donc c'est vraiment un ouvrage qu'on peut avoir dans sa bibliothèque et qu'on a d'ailleurs avec plaisir dans sa bibliothèque par la suite.
Alors Florence Clairefeuille, combien ça coûte de mettre sa vie dans un livre?
Voilà, la grande question, évidemment. Alors, ça a un coût, c'est clair.
C'est un métier, voilà. Donc ça a un coût.
Et puis, c'est quelque chose qui se fait un petit peu sur la durée aussi, hein, puisque je disais, donc, on a en moyenne une dizaine d'heures d'entretien avec la personne, sachant que chaque heure d'entretien, par la suite, moi, me donne environ 3 ou 4 heures de travail derrière pour la mise en forme. Donc, ça, plus ensuite la numérisation, la mise en page, etc. Donc on arrive à un coût global qui tourne autour de 2000 ou 2500 euros pour la réalisation complète en comptant à peu près une dizaine d'exemplaires imprimés à la fin.
D'accord, comme ça on a une idée.
Exactement.
Florence, comment on se situe en tant qu'écrivain, là je dirais écrivain tout court, quand on est dans cette appréciation des récits qu'on nous offre et qu'on va mettre sur le papier, où se situe l'écrivain dans le style, est-ce que vous allez vraiment... on peut vous raconter une histoire et puis vous pouvez avoir votre façon de l'écrire, ou est-ce que vous allez utiliser le vocabulaire, le tempérament de la personne qui est en face de vous dans votre façon de la proposer?
Alors là, clairement, je ne suis pas du tout écrivain dans ce point de vue-là, parce que justement, ce n'est pas moi qui raconte. D'ailleurs, toujours, j'écris à la première personne, mais le jeu qui se trouve sur le papier n'est pas du tout le mien. Et donc, au maximum, j'essaie effectivement d'utiliser les façons de parler, les tournures, le vocabulaire de la personne qui se trouve en face de moi.
Exercice intéressant pour vous, parce
très
que là, du coup, vous rentrez dans l'écriture de l'autre.
Exactement, ouais, c'est très intéressant parce que ça permet de se mettre vraiment de devenir quelqu'un d'autre, l'espace de la rédaction.
Vous d'ailleurs, devez vivre beaucoup d'aventures extraordinaires.
Je vis en tout cas plein de vies différentes, oui, et ça c'est très intéressant. Ouais.
Et alors je sais que vous aimez écrire pour vous aussi, je sais que vous aimez écrire de la poésie.
Oui,
c'est vrai. Hein,
oui, c'est vrai.
Bon, vous écriviez de la poésie avant de faire de l'informatique.
Ah oui. La poésie, ça a été ma première expérience d'écriture, puisque bon, comme beaucoup d'adolescents, quand j'avais 15 ans, je remplissais des cahiers entiers de poèmes que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai conservés par-delà les années. C'est vrai que maintenant, la poésie m'occupe beaucoup moins. Mais ça a été ma première expérience d'écriture et c'est clair que jouer avec les mots a toujours été quelque chose d'important pour moi et c'est clairement une des raisons qui m'ont amenée à pratiquer ce métier-là.
Et le métier d'écrivain alors, vous l'abordez-vous dans quoi ? Dans quelle œuvre, dans quel ouvrage on peut retrouver Florence Clairefeuille ?
Alors sur le plan plus personnel, j'écris des nouvelles. J'ai publié un recueil il y a 2 ans maintenant, j'en prépare un autre pour cette année parce que effectivement quand on a le goût des mots et de l'écriture, écrire pour les autres c'est bien, mais de temps en temps justement on a envie que le jeu soit aussi un petit peu le sien. J'ai fait des textes plus c'est un petit peu de l'ordre du récit de vie aussi puisque ce sont des récits de voyage ou le récit d'une mission humanitaire puisque donc entre ma vie d'informaticienne et ma vie d'écrivain public, j'ai aussi passé pas mal de temps à travailler dans l'humanitaire, donc avec mon mari et mes 2 enfants, nous sommes partis en famille, les enfants sont nés à l'étranger d'ailleurs, tous les deux.
Ils sont nés où ?
Alors l'aîné est né en Bolivie et la cadette est née en Angola.
Voilà.
Voilà, donc ce sont des zones un petit peu originales. Bon, c'est toujours, pour eux, c'est un...
Mais vraiment d'autres cultures.
Exactement, tout à fait, ouais. Et donc, par la suite, il y a eu des voyages au long cours aussi avec eux. Donc là, le récit était un petit peu du même ordre, à savoir faire en sorte que les enfants puissent retrouver, ne rien perdre de toute cette histoire qui est la leur, mais dont ils ne pouvaient pas conserver toutes les images.
Quand on va sur votre site, on le rappellera à nos auditeurs, mais Florence Clairefeuille a un site qui s'appelle Amodélier, aussi simplement que cela se dit et que cela se prononce. On voit que dans l'actualité, il y a enfin un bébé qui est là, et ça s'appelle Devenir biographe.
Oui, alors lui, c'est le petit dernier. Alors là, c'est un livre aussi, mais plus pratique, en fait, qui s'adresse justement à tous les gens qui sont intéressés par le métier de biographe.
Vous êtes vraiment dans la transmission, vous êtes quand même très partageuse.
Ah oui. Non,
le
mais
moindre
c'est vrai
de vos savoirs est accessible.
Exactement, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, les connaissances ne valent que si elles sont partagées, enfin, c'est vraiment un credo. Le fait est que je reçois très souvent des demandes d'informations. Je suis assez facile, on me trouve très facilement sur Internet, donc j'ai beaucoup de demandes d'informations de gens qui sont intéressés par le métier, qui se demandent comment ça se passe, comment on devient biographe, est-ce qu'on peut se former, comment on s'installe, comment ça se passe, enfin, vraiment des tas de questions. Alors je réponds toujours, ça c'est un principe de base, mais à force de répondre à ces questions, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait quelque part quelque chose qui regroupe un petit peu toutes ces réponses et qui me permette aussi finalement d'aiguiller les gens plus facilement vers quelque chose aussi de plus complet.
Vers un outil.
Voilà, donc petit à petit, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à écrire donc ce livre, effectivement, qui s'appelle « Devenir biographe » et qui reprend un petit peu... Il se découpe en 6 grandes parties. Donc, il y en a une première qui s'intitule « Être ou ne pas être biographe » qui présente un peu les qualités, les compétences nécessaires. Ensuite, on a une partie sur les clients. Qui sont les clients? Pourquoi ils viennent voir le biographe? Justement, quelles sont leurs motivations? On a une partie sur s'installer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'on peut se former? Quels sont les statuts? Ce genre de choses. Le travail du biographe en lui-même, donc comment se déroulent les entretiens, des petits trucs pratiques pour justement arriver à mettre les gens à l'aise et éventuellement les aider à fouiller dans leur mémoire, susciter un peu la parole quand ils ne sont pas peut-être très à l'aise ou ni très motivé au départ, parce que ça peut arriver quand c'est à la demande des enfants, notamment. Ensuite, les différents types de récits de vie auxquels on peut être confronté, parce qu'il y a quand même des nuances selon le type de client, selon si c'est une personne seule, un couple, une entreprise, parce que ça peut être aussi le cas d'une entreprise ou d'une association qui a besoin l'envie simplement de mettre son histoire par écrit. Et puis enfin, une partie sur comment est-ce qu'on fait pour vivre de ce métier.
C'est possible.
Alors, c'est possible à condition de ne pas être trop pressé, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter au départ à avoir une activité un petit peu variée. Hein, on a parlé au départ d'écrivain public et de biographe. Bon, déjà, en soi, ça montre bien qu'il y a plusieurs types d'activités. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande un peu de temps, quoi. Le temps de... Le meilleur prescripteur, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, ben, implique une certaine durée. Donc, c'est vrai que c'est important de prendre ça en considération.
Évidemment, la demande particulière de chacun peut être étudiée et entendue sur votre site. On parlait du coût tout à l'heure, mais chaque coût aussi dépend de chaque approche et de chaque projet, j'imagine, mené avec les gens.
Oui,
on
oui.
peut réaliser des devis, en fait, sur le site.
Oui, tout à fait. On peut. Et de toute façon, il ne faut pas hésiter à me contacter. C'est vrai que chaque demande est différente. Donc, on peut aussi tout à fait imaginer de faire le récit d'une partie simplement de la vie, ou alors de le faire en différentes étapes. On peut faire quelque chose d'assez résumé si on n'a pas ou si on a peu de moyens ou si on a peu de temps aussi, parce que bon, le temps est aussi à prendre en considération. Mais de toute façon, toutes les demandes sont intéressantes, peuvent être étudiées et discutées, ça c'est clair.
Florence Clairefeuille, pour le livre Devenir biographe, on se le procure où ?
Alors, comme j'ai fait le choix de l'auto-édition, en fait, pour le trouver, la manière la plus facile, c'est d'aller encore une fois sur Internet. Donc là, il existe un site dédié qui s'appelle là, tout simplement devenirbiographe.com. Donc, plus simple, c'était difficile de le faire. Et là, vous aurez toutes les informations. Donc, le livre existe au format papier, bien sûr, mais aussi au format numérique. Et on peut également le trouver donc, sur Amazon au format numérique dans la boutique Kindle.
Ah oui, il existe également numérisé.
Et oui.
Voilà, pour ceux qui ont des tablettes, tout ça. Évidemment, l'informaticienne que vous êtes n'exclut pas la technologie. Hein,
voilà.
que vous étiez, en tous les cas. D'accord. Bon, est-ce que cet amour, est-ce des mots, mais aussi des gens, puisque je pense qu'il faut avoir cet amour des gens pour faire ces rencontres, est-ce qu'un jour cela vous amènera, vous, à faire votre biographie et à nous raconter toute la mémoire à travers votre vie d'un territoire, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de glaner plein de récits de vie de notre territoire. Est-ce
peut-être.
Que vous nous les rendrez ?
Ah, peut-être, qui sait, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai encore du travail à faire. Donc, je ne me suis pas encore trop posé la question de l'écriture de ma propre vie, parce que pour l'instant, celle des autres m'intéresse plus.
Et pourtant, la vôtre doit être passionnante. Vos enfants ont déjà grandi et poussé ailleurs, donc il doit y avoir des choses à dire et à raconter.
Oui, oui, il y a des choses à dire, c'est clair.
C'est plus facile de faire appel à quelqu'un d'extérieur que d'être soi-même à sortir sa propre vie.
Alors, le biographe peut apporter une aide assez considérable, ne serait-ce que parce que, déjà, il faut avoir l'aisance de l'écriture, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, quand on veut revisiter une vie entière, c'est quand même un travail de longue haleine. Donc, même quand on se sent à l'aise avec l'écriture, bon, on démarre, on prend une feuille, on se dit, bon, allez, là, je vais pouvoir écrire tout ça. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même... ça prend énormément de temps. Le découragement... peut facilement vous prendre. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est là, qui vous soutient, qui vient de manière régulière pour discuter avec vous et vous écouter, c'est un support qui permet d'aller beaucoup plus loin, sans parler du fait que, ne serait-ce qu'en verbalisant les choses, souvent, on permet de mieux... d'aller plus loin dans les souvenirs et de retrouver beaucoup plus de choses que quand on se penche tout seul sur sa feuille de papier.
Le support de la mémoire. Merci beaucoup Florence Clairefeuille d'avoir répondu à notre invitation. Comme le veut la tradition de Tac au Tac, vous aurez le mot de la fin. Alors on va partir savoir le temps qu'il va faire cette nuit et demain matin. Et juste après, on se retrouve.
D'accord.
Cartridge World, une solution économique et écologique pour recharger vos cartouches d'imprimante au 7 avenue Saint-Exupéry à Gaillac, vous présente la météo.
Pour cette nuit, donc, du lundi 20 février au mardi 21, eh bien, il va faire froid, Florence, il va faire froid. Sous un ciel étoilé et un vent de nord devenant très discret en plaine, les températures vont retrouver en milieu de nuit des valeurs négatives à toute altitude. Cet état de fait est donc propice à la formation en fin de nuit de gelée blanche jusqu'en plaine et il y aura également des nappes de brume glacée aux abords des cours d'eau. Le thermomètre va afficher à ce moment-là un moins 4 degrés à Dourne et moins 7 degrés à la Cône. Et demain, mardi 21 février, nous attendons un temps sec et frais avec des bancs de brouillard qui vont tapisser les vallées tarnaises encaissées. Il y aura un petit peu de givre déposé en début de matinée qui se dissipera un petit peu plus tard et il permettra au soleil de briller généreusement par la suite jusqu'à la fin de la journée en espérant que cette météo-là ne change pas. Vous en saurez un petit peu plus avant votre journal d'information en direct sur Air d'Autant un petit peu avant midi.
La météo vous a été présentée par Cartridge World. Cartridge World recharge vos cartouches d'imprimante pour les particuliers et les professionnels au 7 avenue Saint-Exupéry à Gaillac.
Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette première édition de la semaine de Tac au Tac. www.airdautant.fr d'ici une petite demi-heure pour podcaster, télécharger et réécouter en boucle Florence Clairefeuille si vous voulez tout savoir du métier d'écrivain public et de biographe, à Modélier pour son site et puis de 7h30 à 8h30 pour la rediffusion en matinale de cette émission. Florence Clairefeuille, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et maintenant le mot de la fin, il est pour vous, c'est entre vous et les auditeurs de Air d'Autant.
Alors le mot de la fin, il va être tout simple, c'est que le métier de biographe, c'est beaucoup de belles rencontres, j'en ai déjà fait pas mal et je sais qu'il en reste encore beaucoup, donc je vous attends.